c'est de dresser une panoplie plus large sur l'eau dans le monde. Et surtout, j'ai intitulé un peu le titre différemment de ce que vous avez sur les petits papiers, les inégalités d'accès à l'eau à l'échelle du globe, et surtout comment cette ressource est sollicitée, et de plus en plus elle le deviendra. Donc c'est sans doute une ressource qui est en danger, et plusieurs auteurs parlent même de guerre de l'eau, guerre de l'or bleu, pardon. Donc c'est montrer un peu l'importance hein, de ce problème. Alors, quel est l'objectif de la conférence de ce topo? C'est de comprendre quelle est l'origine des inégalités d'eau à l'échelle du globe, à la fois en termes d'offres et de demandes. Je pense que ça vous comprenez, il y a une certaine offre, une disponibilité dans l'eau, et puis il y a une ressource qui va être utilisée en fonction de la population, et plus la population est importante, plus elle va avoir besoin d'eau. Malheureusement, les disparités à l'échelle du globe sont importantes. Donc, je vais vous rappeler un peu, dans un premier temps, hein, quelles sont les inégalités à l'échelle du globe. Et puis ensuite, percevoir l'eau comme une ressource extrêmement sollicitée, en danger, c'est ce que je vous disais en titre, et que l'eau de plus en plus sera amenée à sans doute être répartie de manière différente, puisque s'il y a changement climatique, vous connaissez sans doute ce thème-là, hein, qui est souvent évoqué dans les médias. Alors du côté scientifique, on n'est pas forcément tous d'accord sur ce terme de réchauffement climatique. Il y a sans doute un changement climatique, on joue sur les termes, mais là c'est important. Et en tout cas, dans les prévisions actuelles, l'eau sera de plus en plus importante, mais sera distribuée de manière différente. Donc si vous avez également des questions par rapport à ça, je suis prêt à en parler. Par contre, je vous ai mis aussi une photo qui... je vais essayer de vous donner quelques chiffres. C'est plutôt pour vous faire réagir, pour vous montrer un peu les incidences qu'il y a à l'échelle du globe, puisque je vous ai mis ici une petite photo qui vous montre, qui vous rappelle que l'accès à l'eau potable, ce n'est pas une généralité. Pour nos sociétés, oui, mais pas dans les autres sociétés qu'on a pu se développer. Alors, le terme, j'aime pas ce terme-là, mais en tout cas, ce sont les pays du Sud, globalement. Il faut rappeler qu'à l'échelle du globe, une personne sur cinq a accès à l'eau potable. Alors, dans un premier temps, donc, je vous disais, je vais essayer de vous présenter un bilan à l'échelle du globe et vous montrer qu'on a finalement des situations qui sont très très contrastées et qui expliquent ensuite une sollicitation importante de la ressource dans certaines régions. Alors, à l'échelle du globe, si on regarde un peu la distribution de l'eau, on a 97,5% de l'eau qui se situe dans les océans, donc qui est l'eau salée, donc qui est inutilisable, en tout cas pour la ressource en tant que telle. Ensuite, l'eau douce, donc ça représente 2,5% de l'eau qui reste à l'échelle du globe, qui est présente. On a trois quarts de cette eau qui est bloquée, piégée dans les glaciers et ce qu'on appelle également les banquises. Donc c'est de l'eau qui est inutilisable à l'état naturel puisqu'elle est gelée. Donc il reste un quart de 2,5%, donc ça fait à peine 1% pour faire simple, de l'eau qui va être utilisée et qui va être présente dans l'eau des fleuves, dans les nappes, dans les rivières, dans les lacs. Et l'eau va être donc utilisée par l'homme principalement sur cette eau qu'on appelle continentale, donc qui circule dans les fleuves, dans les rivières, dans les lacs. Et donc ça représente finalement un millionième de l'eau présente en termes de volume à l'échelle de la Terre. Donc vous voyez finalement que l'eau disponible à l'échelle de la Terre par rapport à une eau qu'on a quotidiennement, qu'on voit, qu'on perçoit assez facilement, elle n'est pas si importante que ça à l'échelle du globe. Alors ensuite, si on fait un bilan à l'échelle annuelle, on a en gros 40 000 km3 d'eau douce qui s'écoule chaque année sur les terres émergées. Et donc si on rapporte ce bilan par rapport à l'ensemble de la population, ici on va prendre 6 milliards d'habitants, on est un peu plus maintenant, mais ça fait une ressource a priori disponible de 6 600 m3 par habitant par an pour chaque individu. Alors tout de suite, hein, c'est ce volume-là, on a peut-être du mal à le matérialiser, mais surtout, il y a des populations qui vont avoir bien moins et d'autres qui vont avoir besoin de consommer beaucoup plus. Ça dépend de vos usages, quotidiens. Si vous avez une piscine, forcément, ça va consommer beaucoup d'eau. Donc, a priori, si on commence par ce bilan-là, de l'eau, il n'en manque pas à l'échelle de la planète. Sauf que derrière, c'est plus compliqué puisque ça va dépendre de la distribution à l'échelle du globe. Alors, premier point, on a donc d'importantes disparités dans l'espace. Vous avez ici une carte qui vous montre un indice de pauvreté en eau. Donc plus les couleurs sont foncées, plus ça veut dire que vous avez moins d'eau. Et on a donc des ressources qui sont inégalement réparties à la surface du globe. Certains pays possèdent d'énormes ressources qui sont renouvelables. Le Canada, les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Australie, la Russie. Et puis d'autres connaissent des difficultés d'approvisionnement qui sont très fortes et qui vont donc entraîner une sollicitation de la ressource importante. C'est ce que vous avez en bleu, donc c'est assez facile à regarder comme carte, En gros, c'est le continent africain qui est malheureusement le plus pauvre en termes de ressources en eau. Et puis, on reviendra tout à l'heure sur le cas de l'Inde et de la Chine, où a priori, ici, on a une ressource qui est importante, mais qui va de plus en plus être sollicitée, puisqu'on va avoir de plus en plus de personnes sur ces deux pays. Alors, pour finir sur ce point, cette situation elle n'est pas en passe de s'améliorer. Une autre carte ici que je vous présente, puisqu'on a 9 pays qui se partagent 60% de la ressource mondiale. Donc ça ne fait pas beaucoup, 9 pays sur, on va dire, 200 pays à l'échelle du globe, pour faire simple. Et donc les pays qui se partagent le plus de ressources, ce sont dans l'ordre le Brésil, la Russie, les États-Unis, Canada, Chine, Indonésie, Inde, Colombie et Pérou. Vous voyez qu'on a deux continents, a priori, qui ressortent, voire trois continents qui ressortent en tête, Amérique du Sud, Amérique du Nord, puis Asie. On est encore dans une situation où là, on voit aussi sur cette carte la situation critique. Alors ce qu'on appelle également un stress hydrologique, un stress hydrique, c'est-à-dire faire moins de 2000 m3 par habitant par an, donc c'est très peu finalement. Et bien on a toute la marge du Maghreb et puis l'Arabie Saoudite également, où là donc on a très peu de ressources finalement à l'échelle du globe. Donc ça c'est l'offre, c'est la carte de l'offre, c'est la disponibilité de la ressource à l'échelle du globe. Vous imaginez que derrière, il faut comparer ces cartes à la demande et à l'importance de la population. Et finalement, on se rend compte que les disparités qui existent déjà à l'échelle du globe, dans l'espace, elles sont accentuées par la répartition hétérogène de la population. On a un manque d'eau important dans un vaste triangle qui va, en gros, de la Tunisie aussi au Soudan jusqu'au Pakistan. En gros, toute la partie nord-nord-est de l'Afrique et jusqu'à la partie sud-ouest de l'Asie. On a plus de 20 pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient qui ont moins, vous avez sur la légende, qui ont moins de 200 m3 par habitant par an. Donc chaque habitant dispose dans ces régions-là de moins de 100 m3 d'eau douce par habitant si on regarde les pays qui sont en blanc sur la carte, donc cette fois-ci, comparé à la distribution de la population, on est plutôt dans la partie centrale de l'Afrique qui est appauvrie. Alors il faut attention, le Groenland est en blanc, mais il n'y a pas de données disponibles sur ce continent. Alors, les disparités donc, sont liées à la répartition hétérogène de la population et on a donc des conséquences assez importantes à l'échelle toujours annuelle. On a des pénuries qui apparaissent dans certains pays, alors de manière ponctuelle pour 80 pays et de manière régulière pour 28 pays. Donc tous les ans dans ces pays, il y a un manque d'eau, une pénurie, qui contraint forcément les populations à s'adapter à ce manque d'eau. Ensuite, on a également des personnes privées d'installations sanitaires liées à ce manque d'eau. Ça représente 2 milliards de personnes. Sur 6 milliards, ça fait quand même un bon pourcentage de personnes donc, qui sont privées d'installations sanitaires. On a également des maladies sanitaires qui sont liées à ce manque d'eau, qui se développent de plus en plus. Alors, on peut citer la maladie de la bouche tétée, qui est un problème important en Afrique, la bilharziose, etc. Et ça touche 4 millions de personnes. Et puis, je reviendrai aussi sur le chiffre suivant. La mortalité liée à la consommation d'eau non potable, vous avez 6 000 enfants par jour qui décèdent à cause de cette eau qui est insalubre. Ça fait en moyenne, il me semble, 5 millions, c'est ça en dessous, 5 millions de morts chaque année liées au problème d'assainissement de l'eau. Donc vous avez ici un exemple d'une absence de station d'épuration. Tous les pays africains, en gros, ont très peu de stations d'épuration et ont même aucun système d'évacuation des déchets, si ce n'est déposer les déchets dans les cours d'eau. Puisque lorsqu'il y aura l'inondation, tous les déchets vont partir, ensuite ils vont être évacués. Alors finalement, les contrastes, ils apparaissent, donc je vous ai parlé à l'échelle globale, cette fois-ci à l'échelle locale, ils apparaissent très marqués. Alors l'Asie est le continent sans doute qui est le plus en danger dans l'avenir, puisqu'en fait, on peut comparer deux chiffres importants. On a 30% des ressources qui se situent en Asie, on a 60% de la population mondiale. Vous voyez forcément qu'on a une sollicitation de la ressource qui va être importante. Et le danger, c'est que dans ces deux pays-là, qui sont en explosion démographique, on va avoir un nombre de populations qui va devenir sans doute de plus en plus important. L'Amazonie, à l'inverse, c'est une région qui est très riche, puisqu'elle possède 15% des ressources, mais il y a seulement 0,3% de la population mondiale. Donc logiquement, on a un pays qui a énormément d'eau, et qui d'ailleurs fait un commerce assez important autour de ces questions de l'eau. L'Afrique centrale est également très pauvre en eau, puisqu'on revient sur des chiffres inférieurs à 50 m3 par habitant par an. Et l'Islande, à l'inverse, a une ressource qui est pléthorique, puisque vous avez 630 000 m3 par habitant par an. Donc vous voyez la différence entre ces deux chiffres-là, ces deux pays, l'Afrique centrale et l'Islande. Donc on a un rapport de 1 à 10 000 selon les régions étudiées. Donc vous voyez que Ensuite, lorsqu'on descend à l'échelle locale, on a d'énormes différences entre les pays. Alors finalement, j'essaierai de faire des petites synthèses à chaque fois, après chaque point. Donc on a d'énormes disparités dans la distribution naturelle des ressources d'eau. Et puis par contre, on a une extension des zones de pénurie et de stress hydrique qui est liée à deux phénomènes. Tout d'abord, la croissance démographique, mais dit comme ça, c'est pas forcément, c'est plutôt une banalité. L'autre phénomène qui est observé depuis quelques années, ce sont les conditions de vie qui changent, puisqu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'exode rural vers l'augmentation des villes. Ça, je pense que vous connaissez, vous l'observez assez régulièrement, même dans nos sociétés. Mais surtout, l'autre point important, c'est qu'on a une personne sur sept qui vit dans un bidonville. Donc ça veut dire un bidonville, c'est vous n'avez pas d'accès à l'eau potable, vous avez de l'électricité sans doute de manière illégale, mais a priori, vous n'avez pas d'électricité, et surtout, vos habitations, elles sont illégales. Elles sont construites de manière non autorisée, mais c'est une nécessité, puisque je le rappelle, une personne sur sept vit dans un bidonville. D'où les problèmes de pénurie, forcément, à l'échelle du globe et qu'on observe. Alors ensuite, par rapport à ce deuxième point, on a donc, j'ai essayé de vous faire un bilan sur la ressource et sur la distribution de la population à l'échelle du globe. Comment gérer et augmenter les ressources en eau? Je parlerai de deux exemples, puisqu'il y en a plein, et j'essaierai de vous montrer quels sont les apports de ces aménagements et les risques associés. Les deux aménagements, alors je peux vous poser la question, qu'est-ce que vous allez faire si vous manquez d'eau? Alors, levez la main. Tout le monde va parler en même temps. Alors, en France, qu'est-ce qu'il y a par exemple dans la Camargue, des choses comme ça? Alors, il y a des digues, mais ça c'est pour éviter les inondations. Qu'est-ce qu'on a construit? Il y a des barrages, alors ça c'est plutôt la partie nord des Alpes, donc je vais en parler. Il y a un deuxième exemple, allez. Qu'est-ce qu'on a fait pour dévier l'eau et pour alimenter et pour faciliter l'agriculture? L'irrigation, ça vous dit quelque chose? Bon, dans la Camargue, on a construit des canaux pour justement utiliser l'eau et permettre le développement des cultures salées. Donc je parlerai de ces deux aménagements et je vous montrerai quels sont les risques associés à ça. Alors, développer les systèmes d'irrigation, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un des premiers systèmes qui a permis d'utiliser et d'augmenter les ressources en eau. Et surtout, donc c'est très vieux puisque ça existe depuis des siècles, voire des millénaires. Les premiers aménagements datent a priori de moins 3000, moins 4000 avant Jésus-Christ, donc ça fait très longtemps qu'on utilise ces systèmes de canalisation. Donc ce sont des systèmes qui permettent de corriger l'eau et la distribution de l'eau dans l'espace et dans le temps. Souvent on construit des systèmes d'irrigation dans les plaines et qui permettent de récupérer l'eau qui descend des cours d'eau. Et puis donc c'est adapté à différentes conditions, vous avez souvent des puits là où vous avez des nappes phréatiques, ça vous parle aussi ça j'espère, vous avez de l'eau qui est présente dans le sous-sol, donc on va construire des puits pour utiliser cette eau, et puis on crée également des barrages de dérivation sur les cours d'eau. Vous avez différents exemples sur le Rhône, avec des barrages et puis des canaux de dérivation qui permettent d'alimenter très souvent des moulins de manière historique, puisqu'aujourd'hui ces moulins ont quasiment disparu. Alors, si je fais un bilan à l'échelle du globe, ces systèmes d'irrigation sont très très importants, puisqu'ils permettent, vous voyez, on a 2,7 millions de kilomètres carrés de terres qui sont irriguées. Alors ça c'est un chiffre qui est en 2002, il est encore plus important aujourd'hui, en rappelant que trois pays sont en tête et sont même majoritairement sensibles à ces questions d'irrigation, puisqu'on a l'Inde, la Chine et les États-Unis qui ont quasiment la moitié des surfaces qui sont irriguées pour développer les cultures. Cette irrigation, elle est nécessaire, puisque là aussi, un chiffre important, elle dépend ou elle permet un tiers de l'alimentation, de la production alimentaire. Vous savez très bien que si on dévie et qu'on fait des systèmes d'irrigation, c'est pour augmenter les ressources en eau, mais également permettre le développement de l'agriculture. Et vous avez même donc 70 à 80% des prélèvements d'eau dans les régions asséchées qui sont possibles grâce à ces systèmes d'irrigation. Je vous présente une photo ici qui est plutôt récente sur un système d'irrigation avec des cercles concentriques. C'est une photo qui est prise dans le Sahara, donc vous voyez très bien l'importance de ce système d'irrigation, puisque ça va permettre de développer différents types de cultures et rendre fertiles les sols qui, a priori, sont dépourvus d'eau. Donc, il n'y a pas de possibilité de développer ces systèmes d'alimentation. Alors, le danger, par contre, c'est que l'irrigation a entraîné la baisse des nappes et puis également l'assèchement de certaines zones de retenue. Et je reprendrai ici une photo qui est assez parlante. C'est la mer d'Aral, qui se situe au Kazakhstan. Alors c'est dans le Caucase, c'est peut-être loin d'ici, mais en tout cas la mer d'Aral, qui avait, alors pour vous donner des ordres de grandeur, qui avait une largeur de 200 km et une hauteur de 300 km, donc ça fait quand même des surfaces assez importantes, eh bien la mer d'Aral, en 40 ans, liée à l'irrigation, a perdu 70% de sa surface et 90% de son volume d'eau. Donc ce sont des surfaces considérables. Donc vous avez ici une photo où on retrouve finalement la trace d'un ancien port avec des bateaux, et puis la mer a complètement disparu, elle a reculé de plus de 100 à 150 km à certains endroits. Donc vous avez également d'autres exemples, malheureusement, qui sont liés à ces problèmes d'irrigation. Alors, un chiffre à l'échelle globale, plus de 20% des espèces qui vivent dans le bol d'eau sont disparues à cause de l'irrigation. Vous avez également le lac Tchad qui a été touché par ce problème d'irrigation, qui est lié aussi à la diminution du nombre de pluies, mais en tout cas uniquement sur l'irrigation. Ça représente 70% des causes de la réduction du lac Tchad, qui est passé de 25 000 km² à 2 000 km². En termes de surface, là également, on a des chiffres qui sont alarmants. Et puis un autre exemple, l'État de Californie a perdu 90% de ses terres humides. Donc on peut citer plein d'exemples qui sont liés à des problèmes d'irrigation. Donc on a sollicité énormément la ressource, on a essayé de l'utiliser au maximum, sauf qu'aujourd'hui on se rend compte que il y a des systèmes qui sont plus adaptés et qui risquent de changer et d'être améliorés dans les années à venir. Alors, deuxième exemple que vous avez réussi à trouver, les barrages. Les barrages à l'échelle du globe, il y en a 36 000. Alors, ce qu'on appelle ici barrage, c'est que c'est un aménagement qui fait plus de 15 mètres de haut. Donc il y a plus de 36 000 ouvrages qui font plus de 15 mètres de haut dans le monde. 600 barrages font plus de 100 mètres de haut, et on a même 50 barrages qui font plus de 200 mètres de haut. Donc il faut s'imaginer que, effectivement, un barrage, c'est important en termes d'aménagement, mais ça va bloquer une quantité de volume d'eau considérable en amont, derrière le barrage. Alors, quand on regarde la date de construction, ces aménagements sont plutôt récents, puisque 85% des barrages ont été construits après 1950, voire même 60% depuis les années 80. Et la localisation des barrages, elle est toute simple. Soit on construit dans des zones de montagne, puisqu'on a suffisamment d'eau qui vont arriver, on a suffisamment de pentes pour ensuite faire de l'hydroélectricité, que vous connaissez, la production donc, d'énergie électrique. Et puis, on va également construire des barrages là où il y a beaucoup d'eau. Donc soit ce sont en fleuve, soit ce sont dans les régions où on a des ressources en eau qui sont suffisantes de manière indirecte, là où le climat et les pluies sont très importantes et suffisamment élevées. Donc là, vous avez un exemple sur le barrage des Trois Gorges, qui a une capacité de 40 km cubes en termes d'eau, donc c'est assez considérable, et par contre vous avez une superficie qui a été endoyée de plus de 1000 km², donc ça a nécessité l'évacuation de ces 2 millions de personnes, et ça a endoyé 1300 sites historiques, donc c'est aussi forcément un enjeu tellement important qu'on sacrifie beaucoup de choses en amont de ce volume, ce barrage. Pardon. Alors ensuite, si on regarde la localisation des barrages, on retrouve cette... C'est logique, ce sont des zones qui ont beaucoup d'eau, qui ont beaucoup de ressources, et ce sont des zones montagneuses. Vous retrouvez bien cette distribution à l'échelle du globe. Alors la couverture spatiale des retenues qui sont en amont des barrages, c'est 400 000 km². On a même le réservoir Volta qui a la plus grande superficie en amont, 8 500 km². Et l'investissement mondial, c'est aussi un chiffre important, c'est 30 milliards d'euros par an pour la construction de barrages. C'est une moyenne. Pourquoi construire des barrages? C'est pour augmenter la ressource, mais de manière indirecte aussi, là, derrière, c'est qu'on peut produire de l'hydroélectricité pour 10 000 barrages sur les 36 000 dont je vous ai parlé précédemment. On peut également réguler les quantités d'eau, ce qu'on appelle le débit. Alors le débit, c'est un volume d'eau qui passe à un instant T à un endroit donné. Donc on va, plutôt d'avoir des hauts débits et des bas débits, on va réguler le niveau avec les barrages, ce qu'on fait sur le Rhône, principalement. Ici, on peut également donc lutter contre les problèmes d'étiage, les bas niveaux ou les problèmes d'inondation, les hauts niveaux. Et puis, on a également construit des barrages pour faciliter la navigation fluviale. Là aussi, sur le Rhône, vous avez beaucoup d'écluses qui permettent justement à des bateaux de passer ces barrages et de faciliter le commerce. Le danger. On n'en parle pas souvent, mais ça arrive assez fréquemment, les ruptures de barrages avec ce qu'on appelle une onde de choc vers l'aval. Bien évidemment, lorsque le barrage va céder, vous allez avoir tout le volume d'eau qui va descendre vers la partie aval, et ça peut entraîner des zones de choc considérables. Alors, il y a eu de nombreux événements, pour ceux qui s'en souviennent, qui sont peut-être plus âgés que vous, majoritairement dans la salle. Il y a eu la catastrophe de Malpassé, c'est en 50, 59, pardon, donc 423 morts. Et puis il y a eu Vaillon en Italie qui a entraîné 2100 morts. Mais si on regarde également 79, ici, vous avez eu un barrage qui a cédé, qui a entraîné environ 38 morts, puisque ça, c'est toujours un problème, l'estimation du nombre de morts après des catastrophes naturelles. Je pense que les actualités récentes vous montrent bien cette difficulté. Alors, autre chiffre important, c'est qu'on a une probabilité très forte de rupture de barrage en Chine, puisque vous avez une rupture possible par an sur 16 000 ouvrages qui ont été construits en Chine. Donc là aussi, on peut s'attendre un jour à avoir une catastrophe importante. Le problème, c'est qu'il faut bien construire des barrages pour utiliser les ressources disponibles. Donc finalement, élément de synthèse là aussi, plus un aménagement est ambitieux, que ce soit en termes d'irrigation, en termes de barrages, plus les conséquences sont lourdes sur l'écosystème, sur les milieux naturels, mais le problème, c'est que ces ouvrages sont nécessaires pour exploiter au mieux la ressource. Vous avez ici un autre exemple, le temple d'Abou Simbel qui a été déplacé suite à la construction du barrage d'Aswan, puisqu'on a déplacé donc les statues à gauche, hein, on les a déplacées, on les a surélevées de 65 mètres, puisqu'avec la construction du barrage, ces sites historiques allaient être ennoyés. Donc ça a été fait dans les années 60-70, puisqu'entre 65 et 66, on a déplacé ces statues, ce qui a nécessité beaucoup de polémiques à l'époque et des travaux très très importants derrière. Alors ensuite, plus largement, je vous ai fait un bilan sur l'offre et la ressource. Je vous ai parlé un peu des aménagements et des dangers potentiels liés à ces aménagements. Quelles sont globalement maintenant les conséquences des activités humaines sur la distribution de l'eau à l'échelle du globe? Là aussi, ce sont des chiffres simplement pour vous amener à réfléchir sur on utilise la ressource, mais on ne fait peut-être pas forcément attention à la manière dont on l'utilise, ce qui va me permettre de faire la transition avec le point suivant sur quel avenir pour les ressources en eau dans les années à venir. Alors, premier point, on a utilisé la ressource principalement pour développer les systèmes de culture, augmenter la production alimentaire, et ces surfaces cultivées sont de plus en plus gourmandes, entre guillemets, en eau, pour produire une nourriture finalement nécessaire pour l'ensemble de la planète. On a augmenté de manière importante ces surfaces cultivées. Tout simplement pour une raison simple, c'est qu'il faut absolument produire suffisamment de nourriture pour l'ensemble de la population. Deux chiffres peut-être assez rigolos, entre guillemets, pour produire un kilo de bœuf, ça peut paraître anodin, mais il faut entre 30 000 et 50 000 litres d'eau pour que tout le monde, enfin, pour que chaque personne mange un kilo de bœuf. Il faut 800 litres également pour un kilo de blé. Vous voyez ici que la ressource en eau nécessaire pour de petites choses, finalement, pour nous, elle demande une eau considérable. Donc vous avez également ici une photo qui vous montre que en augmentant les surfaces cultivées, on a supprimé des haies de manière importante, qui avant étaient des protections naturelles face à des concentrations de ruissellement. Et bien ce problème, c'est qu'aujourd'hui, on a supprimé beaucoup de haies, et on se retrouve avec des parcelles ici qui, lorsqu'elles vont produire du ruissellement, le ruissellement va continuellement avancer et toucher, bien évidemment, des habitations qui vont se situer dans des points plus bas. Un autre exemple, les nappes souterraines qui sont extrêmement sollicitées, je vous en ai parlé tout à l'heure, elles sont en danger. Elles subissent une pression excessive de plus en plus intenable pour le programme national pour le programme des Nations Unies sur l'environnement. Et on a ici une carte qui vous montre la localisation des usages industriels dominants ou industriels et domestiques ou agricoles à l'échelle du globe. En rouge, les usages industriels, ce sont tous les pays du Nord. En vert, ce sont principalement des nappes qui sont sollicitées pour l'agriculture. Alors, quelques chiffres. Le nombre d'aquifères, donc ce sont les nappes qui se situent sous nos pieds, surexploitées au Mexique, est passé de 32 à 130 en 25 ans. On a une baisse de plus de 3 mètres dans le Middle West. Donc ça fait des volumes considérables qui sont perdus, qui sont inexploités. Et on a également la moitié des aquifères qui se situent en Espagne qui sont en voie de surexploitation, voire en voie d'épuisement. Donc là, l'idée, c'est de vous dire, on a des nappes souterraines qui ont été extrêmement sollicitées. Qu'est-ce qu'on va faire dans les années à venir? Est-ce que le fait d'utiliser continuellement ces nappes, ça va être tenable pour les années qui vont arriver? Autre point que vous connaissez tous, la pollution qui est liée aux activités humaines. Alors la pollution, c'est donc une dégradation qui peut être de différentes natures, physique, chimique, biologique ou bactériologique. Il y a trois types de pollution majoritaires à l'échelle du globe aujourd'hui. La pollution domestique, qui sont liées à des usages quotidiens, à des rejets dans les eaux, donc qui deviennent usés. Il y a une pollution qui est également agricole, qui est liée à l'utilisation des engrais. Et l'utilisation excessive des engrais a notamment entraîné la prolifération des nitrates. Alors peut-être que dans cette région, on connaît moins ce problème, mais la Bretagne, par exemple, est continuellement affectée par ces nitrates. Vous avez ici une photo qui vous montre la prolifération des algues vertes qui vont ensuite entraîner des problèmes sur les écosystèmes. Et puis vous avez également l'usage intensif des pesticides où on se rend compte aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup de conséquences sur l'environnement. Et notamment, ce qui va peut-être vous paraître mais aussi va vous faire sourire, c'est la disparition, la réduction du nombre de guêpes et d'abeilles, qui est un gros problème en France, lié à l'utilisation des pesticides. Sauf que vous voyez aussi, si on continue la chaîne, s'il n'y a plus d'abeilles, on produit moins de miel, etc., etc. Alors, troisième type de pollution, elle est plutôt d'origine industrielle. C'est la grande majorité de la pollution, malheureusement, en France. Elle est liée donc à différents types de rejets, matières organiques et les graisses, qui sont rejetés par les abattoirs, et les industries agroalimentaires, IA, la production d'hydrocarbures, les métaux, l'acide, l'eau chaude, etc. Tous ces rejets contribuent à polluer et à rendre insalubre l'eau qui pourtant, a priori, au départ, est de l'eau douce. Donc il y a non seulement une conséquence sur ensuite on va utiliser cette eau pour faire l'agriculture, mais il y a également une conséquence sur les écosystèmes au sein des cours d'eau avec la disparition des espèces animales et végétales. Et puis, dernier point là-dessus, sur l'utilisation de l'eau en tant que ressource, eh bien, c'est un enjeu, je pense, majeur du XXIe siècle, puisque ça va entraîner d'énormes tensions politiques. Alors, pour rappel, 260 fleuves sont contigus ou traversent un ou deux pays, voire plusieurs pays. Et forcément, si un pays surexploite un cours d'eau, le pays qui est situé à l'aval du cours d'eau ne va plus avoir suffisamment de ressources pour utiliser ou pour exploiter et développer la production alimentaire. Donc ces dégradations, ces pénuries, ces problèmes d'abondance sont des sources de conflits. Et je vous rappellerai ici un article qui avait été publié dans le Figaro, un peu simplement un journal, hein, il y a beaucoup de journaux qui en parlent de ce problème-là. La guerre de l'or bleu menace la planète. Donc vous voyez que ces deux termes-là, l'or bleu, ça désigne l'eau, le potentiel de l'eau, et on parle même de guerre de l'or bleu aujourd'hui à l'échelle du globe. Alors dernier point, quel avenir pour l'eau ? Eh bien, on peut avoir d'inquiétantes perspectives face auxquelles les politiques tentent de réagir. Ça, c'est au moins un bon point, c'est qu'on a une conscience aujourd'hui qui semble émerger en lien avec d'autres problématiques, je dirais, le développement durable et puis le changement climatique qui incite aussi peut-être à faire évoluer les mentalités. Alors, premier risque sur, on va se passer un peu plus loin, sur l'avenir pour 2025. Ce qu'on remarque, ce qui est sûr, c'est que la consommation d'eau va encore augmenter. Elle a déjà quadruplé en 40 ans dans le passé. Comme on va être de plus en plus nombreux, demande va forcément exploser. Pour vous montrer ce chiffre, la demande pourrait augmenter de 650% en 2025 si on devient 8 milliards, qui sont a priori les perspectives les plus vraisemblables. Les besoins pour l'agriculture devaient augmenter de 20%, et dès lors, comme on va encore plus solliciter la ressource, mais que cette ressource-là ne va pas augmenter, sauf si on a un changement climatique important pour pallier ce problème-là, mais ce qui n'est pas le cas dans les perspectives actuelles, eh bien, en tout cas, on aura 2,8 milliards d'hommes touchés par des pénuries en 2025, donc sur 8 milliards, on reste à nouveau dans des 30-40%, mais il y aura de plus en plus de populations qui, a priori, seront touchés par ces pénuries. Deuxième point, des ressources qui vont continuer à s'amenuiser. 2031, c'est a priori la situation qui sera sans doute la plus critique, puisqu'on sera cette fois-ci peut-être 10 milliards d'hommes sur Terre. Et le principal problème reste l'inégale répartition de l'eau à l'échelle du globe et de l'eau potable et les conséquences de son absence, de l'absence de l'eau dans certaines zones. De plus, continuer à surexploiter les nappes posera d'inévitables problèmes écologiques. Un autre exemple ici, aux États-Unis, vous avez la nappe d'Ogallala, qui est une nappe en bleu sur la carte, qui est l'une des plus grandes nappes exploitées. Eh bien, un chiffre également, elle se vide 8 fois plus vite qu'elle ne se remplit. Donc forcément, au bout d'un moment, il n'y aura plus d'eau dans cette nappe, et donc on ne pourra plus l'utiliser. On est proche du Middle West et vous voyez les conséquences, par exemple, sur la production alimentaire qui peuvent arriver et qui seront sans doute à prendre en compte dans les années à venir. Alors, par rapport à ça, on a une prise de conscience qui finalement est récente, mais qui commence à émerger. Alors la première conférence sur l'eau a été donnée à Mar del Plata, qui est en Argentine, et cette conférence a permis de rappeler que l'eau est un bien commun auquel chaque individu a le droit d'accès. Alors c'est bien de le rappeler, sauf que je vous rappelle qu'un habitant sur cinq n'a pas accès à l'eau potable à l'échelle du globe. Dans les années 2000, on a eu plusieurs rencontres internationales qui se sont multipliées et qui ont permis de mettre à jour ces problèmes de risque de pénurie, de dégradation des ressources et de difficulté d'accès à l'eau. Vous avez différents schémas, différents petits dessins qui ont été faits pour faire prendre conscience que finalement l'eau est une ressource épuisable et non pas inépuisable et donc qu'il faut apprendre à l'économiser. En 2002, le sommet de Johannesburg, qui est sans doute là aussi l'apogée, qui était en lien avec le développement durable, on a rappelé qu'il fallait réduire de moitié d'ici 2015 le nombre de personnes n'ayant pas accès à l'eau potable. C'est une utopie, on est en 2011, c'est pour 2015, on est certain qu'on ne sera pas à la moitié des personnes qui ont accès à une eau potable salubre. Donc là, mais en même temps, c'est une prise de conscience qui est importante. Et puis, le Forum mondial de l'eau à Mexico a rappelé et a permis de continuer sur ce combat-là, le combat de l'eau source et bien commun pour tout le monde. Et ça a permis surtout d'engager certaines actions locales pour gérer l'eau. Ce forum est très récent, c'est 2008. Alors finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut économiser l'eau et surtout essayer d'apprendre les bons gestes. Pourquoi économiser l'eau? Parce qu'en fait, on se rend compte que de nombreux facteurs engendrent des gaspillages importants. On s'en rend pas forcément compte, mais nous, par exemple, on a de la chance, on a de l'eau au robinet, sauf que entre le moment où on puise l'eau et où elle arrive au robinet, on a déjà entre 20 et 30% de pertes liées aux canalisations. Alors, ces problèmes-là sont importants, ils sont mis en évidence. On a un mauvais entretien des canalisations et des adductions d'eau, le prélèvement d'eau. Ça atteint même 40% en Amérique latine, et il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas seulement dans les pays du Sud que ces problèmes sont importants, c'est également dans nos sociétés. Un autre chiffre, perte de 30% d'eau par les compagnies privées qui utilisent et qui exploitent l'eau au Royaume-Uni. 30% de l'eau est perdue entre le moment où on la prélève et le moment où vous l'avez et vous l'utilisez. Donc il y a un problème sur cette économie de l'eau. On a également des remontées de sel qui sont apparues suite à une trop forte irrigation, donc qui vont polluer les sols et qui vont les rendre inutilisables. Et puis on a des pertes par irrigation gravitaire qui tombent par gravité directement dans le sol. Et là on atteint des chiffres importants, entre 60 et 65% de l'eau s'évapore ou s'infiltre, donc elle est inutilisable pour l'homme. Vous savez très bien que l'eau, elle tombe des nuages, mais qu'ensuite elle peut très bien repartir dans l'atmosphère sans que vous ayez le temps de l'utiliser, ou s'infiltrer et rentrer dans le sol. De plus en plus, on va sans doute avoir des cartes comme ça qui vous imposent des limitations d'usage de l'eau lorsqu'on a des périodes de sécheresse, exemple en 2003 ou plus récemment en 2009, on a eu certains départements où la consommation d'eau est très limitée. Par exemple, vous ne pouvez pas laver votre voiture puisqu'on est dans une période où la sécheresse va être importante. Et puis, dernier point sur comment trouver et comment utiliser les ressources, il faut trouver de nouvelles solutions et on a quelques projets qui apparaissent qui sont assez innovants. On a par exemple, on récupère de l'eau qui est contenue dans la rosée ou dans les brouillards par des systèmes de draps. On peut également avoir des normes urbanistiques qui sont imposées. En Belgique, on vous impose quand vous construisez une maison d'avoir une citerne de récupération des eaux pluviales. On peut avoir également, ça c'est à la mode entre guillemets, ce sont les chasses d'eau à consommation réduite, donc toilettes sans eau ou sèches. Et puis on peut avoir aussi des systèmes de micro-irrigation qui sont bien moins consommateurs et bien moins surtout dépensiers en eau, qui ont été développés dans les années 40 par les Anglais et qui sont de plus en plus utilisés, notamment en Israël. Alors, conclusion. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cela et quel serait le message, si j'en avais un, à délivrer? Eh bien, souvenons-nous que l'homme, n'est pas le seul à utiliser les ressources en eau. Tous les écosystèmes naturels ont besoin de l'eau pour exister. Dès lors, jusqu'à quel niveau, c'est une question qui se pose, jusqu'à quel niveau pourrons-nous augmenter nos prélèvements et espérer quand même conserver une planète vivante où les écosystèmes prospèrent? Surtout à l'heure actuelle, dans le contexte où on essaie de prendre en compte le développement durable, est-ce que cette question de l'eau, elle ne doit pas non plus être prise en compte? Une citation de Ghislain de Marsilly, qui a publié un ouvrage en 2009, L'eau, un trésor en partage. En somme, l'avenir de l'eau, ce n'est pas sa rareté, c'est son partage équitable entre tous, aussi bien entre les hommes qu'avec l'ensemble de la faune et de l'environnement. Donc ça donne du point un peu à cette idée, hein. C'est qu'il faut prendre conscience qu'on utilise l'eau, mais ne pas la gaspiller, et surtout se dire qu'on n'est pas les seuls à l'utiliser. Et puis, néanmoins, au-delà des directives et des discours, la réalité aux échelles locales paraît bien complexe. Certains pays développés tentent de jouer le jeu de la protection de la ressource. D'autres pays sont, à contrario, des donneurs de leçons. Je rappellerai ici que les États-Unis sont quand même les principaux dépensiers en termes d'eau. On a plus de 25% de la ressource et de l'utilisation de la consommation d'eau en tant que telle qui est aux États-Unis. Et puis, après l'échec du sommet de Copenhague et l'endisement des pouvoirs politiques face à la crise économique actuelle, l'avenir de la protection de l'eau comme ressource inépuisable semble malheureusement compromis, même si on a de nombreuses initiatives qui s'opèrent localement et qui doivent absolument se lier à la politisation du développement durable au contexte de changement climatique pour que ensuite les politiques prennent des décisions et qu'on ait des actions locales qui enfin aient du poids matière assez importante. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre avec plaisir.
Pas de questions ?